Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot en France, la Ligue 1, la 32e journée avec le derby du Nord, Lens qui a battu Lille 2-1. Les précisions de Marie de Chavron pour RFI.
Lens s'est imposé à Lille dans le derby du Nord ce soir 2-1. Les 100 et or sont désormais à 3 points de la 4e place du championnat et la victoire est particulièrement savoureuse. Il faut remonter à 40 ans pour voir Lens gagner les deux derbies d'une saison en Ligue 1. 3 victoires en tout face à Lille cette année et c'est donc un Jonathan Clauss heureux qui s'est exprimé ce soir.
On était sur une bonne série avec ces deux derbies déjà gagnés en cours de saison et on voulait absolument faire la passe de 3. Ça a fait un bon match malgré tout, malgré l'enjeu, malgré le derby. Je trouve que voilà, il y a eu quelques échauffourées mais qui font partie d'un derby et voilà, faut respecter ça. Au final, il n'y a pas eu de trop mauvais gestes, donc voilà, c'était un très bon match avec beaucoup d'intensité. On a mis les ingrédients qu'il fallait. On fait une super première mi-temps, on prend un petit but qui nous dérange un petit peu. Mais voilà, après, on a encore une fois montré la même force de caractère qu'on a montré la semaine dernière contre Nice.
Jonathan Clauss, le défenseur de Lens. Et autre résultat ce soir, Monaco s'est imposé à Rennes 3-2. Saint-Etienne sort de la zone rouge après sa victoire face à Brest 2-1. Et le choc, ce sera PSG-OM, classico à suivre dès 20h45.
En Angleterre, la Cup demi-finale avec la victoire de Liverpool contre Manchester City 3-2. Et Liverpool qui jouera soit Chelsea ou Crystal Palace en finale. Philippe Auclair et Christophe Diremzian pour RFI.
On a cru un moment que cette qualification pour la finale allait tourner à la formalité, vraiment, tant City était à côté de la plaque en première période.
Oui, l'impression qu'on a eue très nette, c'est le fait que le match qu'avait disputé Manchester City contre l'Atlético de Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions avait eu un énorme impact physique, physiologique, mental, psychologique sur le groupe de Pep Guardiola, qui avait d'ailleurs fait tourner pas mal, puisqu'il y avait 5 joueurs sur la pelouse qui n'avaient pas participé au 2-2 contre Liverpool le week-end dernier. Kevin De Bruyne était sur le banc, il est resté parce qu'il avait pris un petit choc justement contre l'Atlético. Et on a vu une équipe de Liverpool qui, quand elle était complètement maître de son jeu, a contrôlé cette première période de manière remarquable. Et contre une équipe de Manchester City, très honnêtement, Christophe, ça fait très longtemps que je ne l'avais vu aussi déboussolé. 3-0 à la mi-temps, je vous dirais pas que c'était pas mal payé, mais c'était pas bien payé non plus pour Liverpool. Ibrahima Konaté, qui marque son 3e but en 3 matchs sur un coup de tête, sur un corner, comme d'habitude. Sadio Mané, qui profite très intelligemment d'une erreur du gardien Zach Steffen. Et puis ensuite, Mané a eu une nouvelle fois une reprise du droit après une action absolument somptueuse, menée par Trent Alexander-Arnold et Thiago Alcantara. C'était du grand Liverpool. Et très honnêtement, en effet, Christophe, à la mi-temps, se disait, mais que va-t-il se passer? Et il y a eu une petite réaction en deuxième période. On y a cru, je pense, pendant 4-5 minutes, lorsque Grealish a réduit l'écart dès la 47e. Et puis, en fait, les choses sont revenues dans l'ordre jusqu'à un but très, très tardif dans le temps additionnel qui donnera peut-être l'impression aux auditeurs que ce match était serré. Il ne l'a pas été. Et à Jürgen Klopp, qui était absolument aux anges après cette rencontre. Parce qu'il a dit lui-même, je n'ai jamais été dans une telle situation dans ma vie d'entraîneur. C'est-à-dire contempler la possibilité d'un quadruplé.
Les Reds connaîtront leur adversaire en finale. Ce sera Chelsea ou Crystal Palace. Les Blues qui n'ont plus que la Cup pour sauver leur saison et se donner du baume au cœur en cette période toujours un petit peu troublée pour le club.
Oui, troublée et troublante parce qu'il y a également bien évidemment tout le temps cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête du club, à savoir mais qui son prochain propriétaire. La décision ne devrait pas tarder à tomber, mais il y a toujours cette incertitude qui, bien évidemment, a un impact absolument sur tout le monde au club. En championnat, ils ont assuré l'essentiel en ce sens que une place dans le top 4 leur semble complètement assurée. Donc, de ce côté-là, la saison n'est pas totalement ratée. Mais le fait est qu'une saison sans trophée pour Chelsea, c'est toujours quelque chose d'un petit peu inhabituel. Ils sont face à une équipe de Crystal Palace, dont il faut se méfier.
Le championnat d'Angleterre se poursuit, la 33e journée ce week-end, avec la victoire de Brighton contre Tottenham, 1-0. Victoire de Southampton contre Arsenal, 1-0. Manchester United s'est imposé contre Norwich, 3-2. Watford battu par Brentford, 2-1. En Espagne, la victoire du Villarreal contre Getafe, 2-1. Victoire aussi de Valence contre Osasuna, 2-1. En Allemagne, on notera la victoire du Borussia Dortmund contre Wolfsburg, 6-1. En Italie, la Juve de Turin, 4e au classement, et Bologna ont fait match nul, 1-partout. On passe au rugby, la Coupe d'Europe, 8e de finale retour avec les Harlequins qui ont battu Montpellier 33-20, La Rochelle qui s'est imposée contre Bordeaux 31-23, victoire de Munster contre Exeter 26-10, l'Est s'est imposé contre Clermont 27-17 et enfin victoire de Toulouse contre Ulster 30-23. On passe au tennis avec les demi-finales du tournoi de Monte Carlo avec la victoire de l'Espagnol Davidovich Fokina contre le Bulgare Dimitrov en 3 manches. L'Espagnol se qualifie pour sa première finale de Masters 1000 et y jouera contre le Grec Tsitsipas qui s'est imposé contre l'Allemand Zverev en 2 manches en demi-finale. Le Paris-Roubaix, et on parle de cyclisme, hier c'était l'édition des Dames, comme nous l'explique Marie de Chevron pour RFI.
Deuxième édition seulement de Paris-Roubaix Femmes. Et après la Britannique Lizzie Daigneau en octobre dernier, la championne d'Italie Elisa Longo Borghini a remporté l'Enfer du Nord en solitaire. Elle était devant la Belge Lotte Kopecky et sa coéquipière Lucinda Brandt.
Aujourd'hui, c'est au tour des messieurs. Écoutez l'extrait de cette interview de Christophe Diremzian avec Laurent Galinon, auteur d'un ouvrage sur le Paris-Roubaix.
Comme chaque année, c'est l'enfer qui attend les coureurs du 119e Paris-Roubaix, le fameux enfer du Nord, jalonné de ces célèbres secteurs pavés qui font le charme, la singularité et la dureté de cette course remportée l'an dernier en octobre, Covid oblige, par l'Italien Sonny Colbrelli. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme aussi la reine des classiques. Classique, le terme dans lequel on regroupe également Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et celui de Lombardie. Autant de courses emblématiques de l'identité d'un territoire au parcours presque immuable et qui ont toutes la caractéristique d'avoir une difficulté redoutée et décisive qui forge des légendes. Tous les plus grands coureurs, pourtant déjà glorifiés par les grands tours, ont mis un point d'honneur à y démontrer leur talent. Ces lieux mythiques et les hommes qui y sont passés sont racontés par le journaliste et documentariste Laurent Galinon dans son livre intitulé « Classique, lieu de culte et champion mythique » paru chez Hugo Sport. Il était notre invité cette semaine à RFI. Bonjour Laurent Galinon.
Bonjour Christophe.
Classique, c'est un hommage à ces courses d'un jour qui comprennent des difficultés diverses, des monts, des secteurs pavés. Ce sont souvent des courses qui se gagnent ou se perdent justement sur ces lieux mythiques. Qu'est-ce que ces courses ont de différent finalement par rapport à un grand tour en termes d'intensité et de dramaturgie?
J'ai tendance à dire que le Tour de France est devenu un problème d'algèbre. C'est la glorification du chiffre. On parle sans arrêt des écarts à l'arrivée. On mesure les watts, on compte les bonifications. Donc c'est une rationalisation de l'effort durant 3 semaines. Alors que la classique, en fait, ressemble à un poème. C'est une fulgurance. C'est un décor très fort, immuable. On y revient chaque année. Et c'est la tragédie qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu le résultat d'une nuit d'amour entre Homère et Napoléon. C'est-à-dire qu'on a le champ de bataille napoléonien. Ces chemins pavés, défoncés, ces virages tordus, ces sortilèges qui entourent tous ces lieux en Belgique, en Italie ou sur les pavés de Paris-Roubaix. Et on a le coureur, ce petit soldat, ce coureur flamand, ce petit coureur italien qui, obsédé par la classique, va réussir chaque année à remporter la classique de son cœur.
Ce qui caractérise les classiques, c'est cet attachement viscéral au parcours, à l'histoire. Dès que vous changez quelque chose, dès que vous supprimez quelque chose, ça provoque généralement des réactions parfois épidermiques parce que on ne touche pas à ces courses-là.
Oui, la force d'une classique, en fait, c'est l'intemporalité de ces lieux et que le parcours est immuable d'année en année. Par exemple, le Coirmont, qui est aujourd'hui le centre névralgique du Tour des Flandres. On y passe depuis 1919. Donc, le fan des classiques en particulier est conditionné par ce fétichisme. Et effectivement, allez toucher un secteur pavé, changez la ligne d'arrivée d'une classique et vous aurez tout de suite des polémiques.
Voilà pour le Journal des Sports de ce dimanche.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.